midagi nädagin nännake, hibadi kobadi kokku mind, midagi nädagin nätta tukku, taevas tulgu sisse mind, ümmer männa mitsa matsa, leiva peale litsa latsa. Lasten tõhus tantsu lüüa, võidja pehme leiva süüa. Koores teen, midagi nädagi nännake, hibadi kobadi kokku mind, midagi nädagi nätta tulgu, taevas tulgu sisse mind, ümmer männa mitsa matsa, leiva peale litsa latsa. Lasten lõõgus tantsu lüüa, võidja pehmet leiba süüa.
Radio SPL 91.8, l'émission Rommelpot, un rendez-vous tous les troisièmes mardis du mois sur les ondes de Radio SPL et en direct. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Matteo Potier Bianchi qui est dans nos studios. Bonsoir à toi, bienvenue surtout.
Bonsoir, merci de ton invitation.
C'est un honneur pour moi. Alors, on va expliquer que, bizarrement, je ne crois pas vraiment au hasard, mais notre rencontre est due à un exploitant agricole, puisqu'on s'est rencontrés dans une ferme, pas très loin, la ferme du Coucou. On a eu l'occasion de discuter, tu m'as parlé de ta vie, et je t'ai dit, tiens Matteo, ce serait bien qu'il vienne à la radio. Alors justement, Matteo, t'es historien, t'es prof, et t'as un moment de l'histoire de France qui t'intéresse énormément.
Le Second Empire, merci à toi encore une fois de ton invitation. Et puis oui, effectivement, on s'est rencontrés chez Émile Henry et ben, ça me fait très plaisir que, ouais, pour en finir on soit ici. Et tu l'as dit, oui, moi je travaille dans mes recherches historiques à l'université, en partie sur le Second Empire, le règne de Napoléon III. Voilà, tout à fait.
Vraiment une passion depuis ton plus jeune âge, je serais tenté de dire.
Depuis un assez jeune âge, parce que Napoléon III a une particularité, c'est que jusqu'à un passé extrêmement récent, il ne faisait pas partie des programmes scolaires du secondaire. C'est-à-dire qu'on sortait du collège et du lycée sans avoir quasiment jamais, ça a été mon cas d'ailleurs, ouais, sans avoir jamais quasiment entendu parler de Napoléon III, du Second Empire. J'aime pas trop les injustices, alors j'ai cherché à corriger ça, me documenter sur la période, et j'ai trouvé ça tellement passionnant. Et donc j'ai travaillé, j'ai cherché à comprendre ce régime, l'empereur, ce qui avait fait la période politique du Second Empire entre 1852 et 1870, et j'y consacre une partie de mes travaux de recherche, tout à fait.
Cette époque-là, c'est un renouveau pour la France, il y a plein de choses qui s'améliorent, il y a la santé, on va dire entre guillemets le confort des gens, bien que le confort auparavant n'était pas celui qu'on recherche aujourd'hui, il y a le gaz qui arrive pour nous éclairer, il y a plein de choses.
C'est une époque de développement incroyable, au niveau économique bien sûr, ça fait partie des considérations de Napoléon III, il en a fait d'ailleurs quasiment un programme puisqu'il a été élu en fait, il a été élu président de la République et ensuite un plébiscite l'a sacré quelque part empereur. Lui, Napoléon III avait une conviction, c'était qu'il fallait absolument mettre les bouchées doubles sur le développement industriel du pays, parce que c'était le développement industriel qui allait pouvoir amener la prospérité dans les villes, dans les campagnes, des rémunérations pour les gens, etc. etc. Il n'en oubliait pas l'agriculture, puisque c'est aussi un sujet qu'il a travaillé, mais c'est la grande période de l'épanouissement de la révolution industrielle en France, le Second Empire.
C'est véritablement un renouveau pour notre pays.
Oui, ouais, ouais, c'est un mot juste, un renouveau dans tous les sens du terme, tout à fait.
Tu dis, il a été élu, et en même temps, c'est un empereur. On aurait eu à cette époque le même système un peu en Belgique avec le roi, la reine et puis les différents parlements, Bruxelles, la Flandre, la Wallonie.
Alors la différence fédérale. La différence majeure, c'est que la France à l'époque est déjà un État unitaire, ce qui n'est, ouais, pas le cas aujourd'hui de nos amis, de nos habits belges. Et bon, au 19e siècle, on a changé de régime politique quand même à une fréquence assez, assez soutenue. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, en fait, c'est le neveu de Napoléon Ier, il s'est présenté à l'élection présidentielle. On venait de
Et en face de lui, on avait qui?
Alors, on avait des gens qui étaient beaucoup moins connus. Ledru-Rollin, Lamartine. Ouais. Lamartine qui a été député de Berg.
De Berg,
il était ouais. candidat. Il était député, par ailleurs. Et eh bien, Louis-Napoléon Bonaparte a raflé 70% des suffrages en 1848 à l'élection présidentielle.
Et à cette époque-là, il n'y avait que les hommes qui votaient.
À cette époque-là, il n'y avait que les hommes, effectivement, qui votaient. Mais qui votaient massivement, d'ailleurs.
Tu crois que c'était important, à cette époque, justement, le vote? Parce que les gens, ils sortaient peut-être d'un système où ils n'avaient pas eu la possibilité de s'exprimer.
L'élection présidentielle de 1848, c'est intéressant parce que c'est le rétablissement d'un suffrage vraiment universel. Jusque-là, c'était le suffrage censitaire. Donc, on votait en fonction de ses revenus, hein, tout simplement. Le fait de réconcilier, ça, c'était très important pour Napoléon III, l'ensemble du peuple, d'intégrer l'ensemble du peuple dans la démocratie, c'était très important pour lui. Et puis, ça a été fondateur. Et d'ailleurs, on est peu revenu dessus par la suite, parce que c'était ancré dans les mœurs, et en cela, il était très moderne.
À cette époque-là, on parlait déjà des départements ou on parlait encore des provinces?
On parlait déjà des départements qui ont été créés
à la Révolution.
Pendant la Révolution. Donc, on
tu
avait
sais que
déjà les départements.
J'ai parlé par numéro, mais normalement, le 59-62, à l'origine, il devait s'appeler le département des deux Flandres.
Oui, ça faisait partie des discussions qui avaient existé.
Et malheureusement, ça n'a pas été accepté.
Ça n'a pas été accepté parce que les révolutionnaires, quand ils ont choisi les noms des départements, et aussi d'ailleurs les noms de certaines villes, puisqu'il y a pas mal de villes en France qui avaient été renommées, avaient voulu faire un...
Table rase du passé.
Ouais, exactement. Et non, mais c'est exactement ça. Et avaient voulu limiter au plus possible les références, enfin tout ce qui pouvait faire référence à l'ancien régime,
à la royauté, les
etc.
rois.
Exactement, oui, tout à fait.
Voilà. On va partir en musique, si tu veux bien.
Avec joie.
Et puis, comme nous sommes le 17 mars ce soir, on va faire honneur aux Irlandais. Et on en écoute tout de suite de la bonne musique irlandaise.
Rang mournfully and
Radio SPL 91.8, l'émission Rumblepot en compagnie ce soir de Matteo Potier Bianchi, historien spécialisé dans la période du Second Empire. Une question qu'on peut se poser, il y avait une adhésion du peuple pour Napoléon III, un engouement peut-être plus dans les campagnes que dans les villes.
Alors il y avait un attachement sincère de la population à Napoléon III et ça on le voit de manière très simple avec le vote, puisque le Second Empire est une grande période de démocratie. Il y a eu, je ne vais pas tous les faire, mais l'élection présidentielle de 1848, le plébiscite de 1851, le plébiscite de 1852, un autre plébiscite en 1870, et entre-temps des élections législatives qui confirment à chaque fois une adhésion populaire, oui, très importante à Napoléon III. Et Napoléon III s'est beaucoup déplacé dans les provinces, dans les départements. Et à chaque fois où il est passé ici, où il est passé en France, il recevait quasiment unanimement des félicitations, des encouragements, des signes d'engouement. Alors ça a été le cas ici, notamment à Hasbrouck et à Dunkerque, puisque...
On sait s'il est passé à Cassel ? On sait pas.
Il est passé... Alors en fait, Napoléon III est passé à Cassel sans s'y arrêter. Pourquoi ? Parce que en allant à Dunkerque, en venant un coup du Calaisis et un coup de Lille, son train est passé par Cassel. La station était desservie. Ouais. Alors il ne s'est pas arrêté, mais il y est passé. En revanche, il s'est arrêté dans le voyage, par exemple, de 1800, dans les deux voyages d'ailleurs, me semble-t-il. Il s'est arrêté pendant 10 minutes à Hasbrouck, puisqu'il y avait un changement de rame, etc. Il n'avait pas pour objet de faire une présence à Hasbrouck, hein. Il allait à Dunkerque, mais sur les 10 minutes où il a été présent à Hasbrouck, le conseil municipal est venu lui présenter par la fenêtre, très probablement du train, les clés de la ville et les hommages de la population. Donc ici, il y avait un engouement sincère, et de manière générale sur l'ensemble de la France sous le Second Empire, plus dans les campagnes évidemment que dans les villes.
Mais tu crois que c'est les zones urbaines qui ont d'une certaine façon détruit le Second Empire?
Alors, Napoléon III avait en fait ses réservoirs de voix, si je puis dire, dans les campagnes. Ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup dans les zones urbaines que se développaient les idées et les clubs républicains qui étaient hostiles au Second Empire, bien sûr à Paris, mais notamment à Marseille, et qui, par exemple, et qui bien sûr rayonnaient leur sphère d'influence. Par exemple, à Marseille, il y avait des clubs républicains en tant que socialiste hein, à l'époque assez important, qui ont rayonné très largement dans l'ensemble de la Provence, etc. Et c'est Paris en 1870 qui achève l'Empire, alors que quelques mois auparavant, il y avait eu ce plébiscite qui avait été une victoire triomphale pour Napoléon III. Mais là, les campagnes n'ont pas pu réagir, si je puis dire.
Et il y avait une certaine forme de tolérance. Il voulait remettre en place une certaine tolérance qui a été peut-être bannie au moment de la Révolution, où c'était quand même un régime assez dur, où il y a eu pas mal de morts, quoi.
Alors, il y a, en fait, on distingue durant le Second Empire, traditionnellement, on a distingué pendant longtemps la période de l'Empire autoritaire, grosso modo entre 1852 et 1860, et une période plus libérale entre 1860 et 1870. Bon, on est en train un peu de revoir cette définition à l'université, dans les milieux universitaires, parce que Napoléon III, en fait, dès 1852, même si on pouvait effectivement constater un certain nombre de restrictions aux libertés qui existaient, l'opposition pouvait exister, elle pouvait présenter des candidats à l'occasion de toutes les élections, notamment législatives, qui ont eu lieu sous le Second Empire.
C'était le même système, Assemblée nationale et un Sénat.
Il y avait une Assemblée... Alors, c'était pas tout à fait le même système. Il y avait une Assemblée nationale qui s'appelait à l'époque le corps législatif, au début du Second Empire, et le Sénat, au début du Second Empire, était à peu près l'équivalent du Conseil constitutionnel. En gros, quand une loi est votée, est-elle conforme à la Constitution, oui ou non ?
Voilà, il passe pour être validé ou non validé.
Voilà, c'était très semblable.
Mais je crois que t'es spécialisé là-dessus, on va en parler après.
Avec joie, avec joie. Mais en tout cas, voilà, oui, une adhésion sincère du Second Empire et de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie en France et surtout dans les campagnes, ça c'est sûr.
On va repartir en musique, puisque c'est à Saint-Patrick et qu'on adore la musique, c'est Radio Espiol. Radio SPL 91.8 de l'émission Romolplat en compagnie de Matteo Potier Bianchi, qui est prof d'histoire à l'université et spécialisé dans le Second Empire. Nous parlons depuis tout à l'heure de Napoléon III. On a parlé de l'arrivée d'une certaine tolérance, de ce pays qui est en train de bouger, s'industrialiser. Et puis malheureusement, il y a quand même une guerre. C'est 1870. Les belligérants, la Prusse.
La Prusse et l'ensemble des États allemands coalisés contre la France. Et eh bien, la France isolée, elle, de son côté. Napoléon III, en fait, commet l'erreur de répondre aux provocations de la Prusse par son chancelier, en fait plus du chancelier que de la Prusse en général, le chancelier Otto von Bismarck, qui voulait une guerre contre la France pour faire l'unité allemande, parce ouais. qu'il fallait un adversaire commun pour unifier l'Allemagne dans ce qui allait être l'Empire allemand, dont découle l'Allemagne unifiée qu'on connaît aujourd'hui.
Avec ses Länders.
Avec ses Länders, exactement. Donc, quelques manœuvres diplomatiques, des provocations, infos, la dépêche d'Ems, que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire...
C'est quoi cette dépêche d'Ems? Pour moi, c'est méconnu.
La manœuvre de Bismarck, je vais essayer de vous la résumer en quelques secondes. Bismarck était chancelier, oui. L'équivalent du premier ministre de la Prusse. Et en 1870, le trône d'Espagne s'est trouvé vacant, pour des raisons dont je nous fais l'économie. Bismarck a proposé pour le trône espagnol un prince allemand de la maison de Hohenzollern. Et là, scandale au niveau des Français, puisque si vous avez un prince allemand au sud et l'Allemagne au nord, vous rendez bien compte de la situation problématique dans laquelle on se trouvait. Napoléon III, les ambassadeurs, etc., demandent et obtiennent le retrait de ce prince allemand. Ce qui se passe par ailleurs, c'est que l'opinion publique et les ministres de Napoléon III estimant qu'il fallait des garanties, eh bien Napoléon III demande à l'ambassadeur français auprès du roi de Prusse, qui s'appelait Benedetti, d'obtenir du roi de Prusse de nouvelles garanties. Donc voilà, promettez-nous que plus jamais un prince allemand ne sera candidat au trône d'Espagne. Le roi de Prusse, très gentiment, indique que, étant donné que le retrait du prince en Espagne est acté, il n'y a pas lieu de donner de garanties supplémentaires. Bismarck, apprenant l'événement, apprenant donc la manière courtoise dont le roi de Prusse a répondu à l'ambassadeur Benedetti, rédige ce qui devient la dépêche d'Ems, c'est-à-dire une dépêche de diffusée dans les journaux, dans laquelle il établit un récit des faits en suggérant tout simplement, enfin en expliquant que l'ambassadeur français a été humilié par le roi de Prusse, puisqu'il aurait été raccompagné par l'aide de camp de service. Ouais, ce qui équivaut à une provocation en duel à l'époque. Et dans un engrenage, Paris, pour répondre à cette humiliation, déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Ça va être une vraie débâcle. D'abord de l'armée française, de l'armée impériale, jusqu'au 4 septembre avec la bataille de Sedan, et ensuite de l'armée républicaine.
Il y a Sedan, je pense que c'est la plus connue, mais aussi des attaques sur l'Alsace et la Lorraine peut-être, puisqu'on sait que ces provinces ont changé une fois allemande, une fois française, et puis vice-versa.
Alors les fronts, en fait, durant la guerre de 70, ont été assez étendus. Jusqu'au 4 septembre 1870, alors il y a le fameux été en enfer, donc le mois d'août, qui a été une catastrophe avec... pour l'essentiel, dans l'armée française, défaite sur défaite. Le 2 septembre, l'armée française est encerclée à Sedan. Napoléon III doit rendre son épée. Et le 4 septembre, l'impératrice Eugénie, qui était restée à Paris, assurait la régence, donc Napoléon III étant fait prisonnier. En fait, une révolution éclate à Paris, si je puis dire. Et l'impératrice doit quitter les Tuileries et la République est proclamée. La République va continuer la guerre, mais pour en finir, n'arrivera pas à de meilleurs résultats. Par exemple, c'est pendant la période de la guerre républicaine que s'illustre Federbe, qui a sa statue
à Lille, entre autres.
Voilà, avec l'armée du Nord. Il a réussi d'ailleurs à obtenir quelques victoires, mais assez minces. Et finalement, la République française, au début de l'année 1871, doit signer la paix avec l'Empire allemand. Et c'est à ce moment-là qu'est actée donc une rançon de guerre, donc de 5 milliards de francs, une somme fixée un peu au doigt mouillé par l'Allemagne, mais qui était très très importante pour l'époque.
Elle a été payée cette somme.
Elle a été payée. Elle a été payée assez rapidement puisque Napoléon III a laissé un pays dans une forme économique tellement importante que par les fonds publics et par un emprunt national, il y a eu en fait un remboursement de cette dette qui a été assez assez efficace, voilà. Et après, c'est l'ouverture de la période de la Troisième République qui
s'achève. Ça veut dire que l'Empire
1940.
Par lui-même, il s'effondre.
Bah, l'Empire, voilà, s'est effondré. Alors, le 8 mai 1870, Napoléon III avait organisé un plébiscite. Il avait demandé aux Français leur accord ou leur désaccord sur les évolutions qu'il avait fait dans la Constitution, sur la parlementarisation. Ouais. Il avait donné plus de pouvoir au Parlement. Et il avait fait un score magnifique de plus de 80% des voix. Et pour autant, eh bien, il n'y a pas eu, en septembre 1870, il n'y a pas eu de levée de bouclier dans les campagnes, en fait, pour la sauvegarde de l'Empire. Néanmoins, un député a eu une bonne formule en 1800, au moment où l'Empire chute, et qui, je trouve excellente, il dit « Une fois de plus, Paris fait la loi à la France ». Et c'est exactement ce qui s'est passé.
C'est déjà le centralisme, alors.
Ah ben, tout à fait. Et puis, c'est déjà
le
jacobinisme qui n'a pas quitté, en fait, la France ou que très peu depuis la Révolution. Et puis, voilà, cette organisation, il faut bien le dire, des milieux républicains qui ont saisi l'opportunité.
Cette guerre par elle-même, ce n'est pas une guerre de tranchées, c'est une guerre sur des grandes étendues, avec de la cavalerie, des hussards.
Et avec quelques épisodes très
célèbres. Un peu d'artillerie, certainement.
Un peu, bien sûr. Et alors, par exemple, pour la cavalerie, on a dans notre histoire militaire la fameuse marche des cuirassés de Reichshofen, qui a été un témoignage de la bravoure des cavaliers français. Mais cette guerre a été perdue pour des raisons qu'on peut retrouver d'ailleurs à l'époque contemporaine, c'est-à-dire une mauvaise préparation, un manque de moyens. Quand vous pensez que quelques mois avant la déclaration de guerre, les députés arrivent à obtenir, notamment sous l'influence des Républicains, que le contingent militaire soit diminué en 1870 de 10 000 hommes. Alors forcément,
ouais, ça fait un trou.
Voilà, ça fait un trou. Et au final, les Français se battront contre les Allemands quasiment à 1-2 en termes numéraires. L'armée allemande est beaucoup mieux organisée par ailleurs. Donc voilà, en France, manque de moyens, manque de discernement sur les ordres. Et Napoléon III, d'ailleurs, lorsqu'il arrive au quartier général, écrit à l'impératrice Eugénie, il lui dit « Tout n'est que désordre et confusion ». Et quand il arrivera sur le front, il écrira à nouveau « Je nous considère d'ores et déjà comme perdus
ouais, »,
ayant constaté la situation.
Il sent la débâcle.
Il avait très
et
bien
la
compris.
Fin, et sa fin.
Il avait très bien compris, bien sûr, que c'était terminé.
Bon, c'est triste, donc on va repartir en musique.
evening, and a little item that sort of gets everybody back in together and all sort of performing, sort of a jam session, you might say. But we'd like to invite back once again Nancy Griffiths. Here she goes. Well, Nancy. Dave Early on the drums. There's Dave. Double bass, Clive Cuthbertson. Come on, Clive. There he is. And once again, of course, Mr. Roger Daltrey. Here he goes. Come on, Roger.
Woo! Radio Spirit 91.8, l'émission Rommelpot en compagnie de Matteo Potier Bianchi, prof d'histoire, un érudit en fait, comme on aime recevoir sur Rommelpot. Et tu as un côté spécialiste sur la Cour des comptes. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas véritablement ce système, qui date apparemment de Napoléon III alors.
Alors, de Napoléon Ier, mais Napoléon III ouais. A conservé la Cour des comptes. Ça, effectivement, c'est ma deuxième spécialité. C'est ce sur quoi porte mon travail de thèse. La Cour des comptes, c'est une institution qui a été créée par Napoléon Ier et qui a une particularité. C'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule institution, au sens général du terme, grand corps, haute juridiction, qui n'ait été à aucun moment supprimée ou dissoute.
Et c'est des personnes qui n'ont jamais été élues pour cette Cour des comptes.
Non, la Cour des comptes, effectivement, n'est pas composée d'élus de la nation. Elle est composée de magistrats financiers. Donc de personnes qui sont là pour, depuis les origines, c'est la même chose aujourd'hui, de
pour
personnes...
valider certainement ou à valider les...
Pour s'assurer que le budget qui a été voté par l'Assemblée ait été respecté par l'administration, en fait. Chaque année, l'Assemblée nationale vote, enfin le Parlement, aujourd'hui c'est l'Assemblée et le Sénat, vote le budget pour l'année à venir. La Cour des comptes s'assure chaque année que l'administration a correctement exécuté le budget qui a été voté par les représentants du peuple. Voilà, si je trace à grands traits, c'est ça son rôle. Et donc, c'est toujours le cas aujourd'hui, bien sûr.
Ils ont une importance... assez importante alors.
Ouais, pas considérable.
C'est de le dire, importante.
Une importance, oui, absolument, parce que la Cour des comptes, c'est l'une des institutions qui est essentielle dans le fonctionnement du système représentatif de la démocratie. Si on veut que le pouvoir de contrôle du Parlement puisse exister sur l'administration, on a besoin de la Cour des comptes, bien sûr.
Comment on peut imaginer qu'une personne qui a voté un budget puisse se retrouver là pour préciser que ce budget est bien fait, positif, bien pour la France. Il n'y a pas une petite ambiguïté quand même ?
La nouvelle...
faire de politique politicienne,
certainement pas, et en proposant un regard d'historien. D'ailleurs, pour la petite histoire, je me demande s'il va falloir dire la nouvelle première présidente ou le nouveau premier président. Je préférerais cette option pour l'instant. Alors, le fait qu'une ministre soit nommée premier président de la Cour des comptes, ou un ministre pour jadis, ça franchement c'est pas nouveau.
Non.
Au XIXe siècle c'était quasiment la règle, ça l'a été un peu moins avec la Troisième République, et puis c'est revenu avec la Cinquième où on a vu des personnalités politiques nommées à ce poste. Je pense par exemple à Félix Séguin ou à Pierre Moscovici. Il y a deux différences essentielles, c'est que si je prends le cas de Philippe Séguin, il était membre du corps des magistrats financiers. C'était son cœur de métier. Il avait été conseiller à la Cour des comptes avant sa carrière en politique, si je ne m'abuse, ce qui n'est pas le cas d'Amélie de Montchalin. Au niveau du calendrier, oui, là, il y a quelque chose d'inédit parce que ce qui est inédit, c'est d'avoir nommé le ministre des Comptes publics à la place, sur l'année en cours, à la première présidence de la Cour des comptes. Maintenant, je tiens... Donc ça, c'est inédit. Maintenant, je tiens peut-être à rassurer les auditeurs. La Cour des comptes, d'abord, la première présidence n'est pas à l'action en tant que telle sur le rapport et sur l'évaluation. Ça, c'est plutôt le travail des magistrats qui travaillent en collégialité. Et qui, eux, voilà, sont présents, n'ont pas été renouvelés cette année. Mais il est vrai que sur le symbole, il y a quelque chose d'inédit qui a été fait par le président de la République, qui a pu irriter à juste titre. Et j'ajouterai de manière générale que les magistrats de la Cour des comptes, depuis des années, n'ont qu'une seule demande, c'est qu'on nomme quelqu'un de chez eux, qu'on nomme comme premier président un membre de la Cour des comptes,
ouais,
et pas une personnalité politique. Parce que
si c'est quoi, c'est une forme de protection, ça, de... Vous rentrez pas dans mes plates-bandes ?
Je ne suis pas sûr que le premier président de la Cour des comptes d'abord ait cette intention, le nouveau premier président, ni qu'il en ait les moyens. Je ne suis pas sûr que si nous avions un premier président de la Cour des comptes qui avait cette intention, il aurait les moyens d'empêcher les magistrats de faire ce travail-là. Ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que quand vous nommez, quand vous faites cette nomination, eh bien, vous pouvez amener légitimement beaucoup de gens à penser que la Cour des comptes est... un organe politique, elle est le petit doigt sous la couture du pantalon de l'exécutif, ce qu'elle n'est pas. Mais c'est malheureux plutôt dans le symbole.
Ouais.
Et historiquement, on a toujours voulu éviter ce genre de choses-là. On a pu nommer des ministres, mais pas d'une année sur l'autre, et pas forcément des ministres des comptes publics. Donc dans le symbole, il y a une irritation qui me paraît légitime et qui est peut-être... pas disproportionné, mais qui n'est pas en tout cas proportionnel à la réalité que pourrait avoir le nouveau premier président de la Cour des comptes sur les travaux de la Cour. Ça ne remet pas en cause l'indépendance de ce travail. Mais symboliquement, si j'avais, moi, président de la République, je n'aurais pas forcément fait ce choix.
Voilà. Ouais. Cette présidence et cette présidente, elle est nommée pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Il y a un laps de temps bien précis.
La première présidence de la Cour des comptes est une fonction inamovible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est nommée, où le premier président est nommé, il ne peut pas être démis. Madame de Montchalin, par son jeune âge, pourrait siéger, si ma mémoire est bonne, 28 ans, en fait, jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de faire valoir ses droits à la retraite. À moins d'un départ volontaire de sa part, c'est un départ à la retraite qui enlèverait Madame de Montchalin.
Et on a la possibilité de dire, moi, mon niveau, je veux arrêter ça.
Elle pourrait, à un moment, le premier président Pierre Moscovici a lui-même décidé d'arrêter, de quitter ses fonctions à la première présidence prématurément. Mais voilà, il n'est pas prévu que le président de la République, par exemple, un prochain président de la République puisse retirer cette fonction au nouveau premier président de la Cour des comptes. Cette garantie existe précisément pour préserver l'indépendance de la Cour, qu'on ne puisse pas changer de premier président à chaque fois qu'on change d'exécutif.
Ouais. Sinon, ça mettrait tout en...
Sinon, ce serait effectivement encore pire sur le fait qu'on considère la Cour des comptes comme un organe politique, ce qu'elle n'est pas.
Voilà, c'est ce qu'il fallait préciser, et c'est important. On va repartir en musique si tu veux bien.
Is harming.
Rommel Pot, c'est Radio SPL en compagnie de Matteo Potier, Bianchi. Matteo, quand on parle de Gassel, il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Il y a deux, en fait, deux choses. Le premier dont on va parler, c'est l'hôtel d'Aluin, qui a été magnifiquement rénové. D'ailleurs, c'est quand même bizarre, parce qu'aujourd'hui, on ne le voit plus. Qu'il est beau, qu'il est propre, qu'il est tout neuf. Et puis, il y a ce sacré château Vendôme. Et je crois qu'il est en bonne relation avec le cercle impérial de Flandre. Et on pense tout de suite, entre autres, à notre ami Dominique Serret et puis toute son équipe, on va dire.
Bien sûr. Ah bah on va commencer par là pour choisir entre ces deux belles bâtisses. Il se trouve que j'ai la chance d'être délégué du souvenir napoléonien dans la région Hauts-de-France. Donc j'ai le plaisir effectivement d'être en contact avec le cercle, enfin plus qu'en contact d'ailleurs, avec le cercle impérial des Flandres, avec Damien Top, avec Dominique Serret, qui sont des gens formidables, très très engagés. Et très engagé, mais surtout pour une bonne cause, puisque on a ce patrimoine unique qui est le château Vendôme, la Cassel, la frégate. Et comme le cercle impérial des Flandres, moi je suis un partisan ardent de sa réfection, de sa restauration. Évidemment.
Le gros hic, c'est que c'est une propriété privée. Si je ne m'abuse.
C'est tout à fait une propriété privée.
Je sais qu'il y avait une approche avec. On l'aime ou on l'aime pas, moi je trouve que ce monsieur fait beaucoup de travail, Stéphane Bern, qui aurait été en capacité d'apporter des fonds justement pour cette réfection.
Alors le cercle,
s'il avait appartenu au cercle.
Le cercle impérial des Flandres a fait un travail absolument remarquable, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où le château Vendôme changerait de propriétaire, ils ont monté tous les dossiers, ils ont les soutiens, etc. Alors, on parle de Stéphane Bern avec la fameuse fondation du patrimoine.
Voilà.
Stéphane Bern pourrait intervenir si, eh bien, soit il y avait une volonté du propriétaire actuel, soit que le château changeait de propriétaire. Et à partir du moment où il y aurait ce changement de propriétaire ou cette volonté de faire quelque chose, il y aurait une possibilité, grâce au cercle impérial des Flandres, de subventions massives pour la restauration de ce château. Ce qui bloque actuellement, bien sûr, c'est le fait que c'est une propriété privée, que ni le cercle impérial ni la mairie n'en ont la jouissance. Donc par
et les moyens de l'acheter aussi, surtout.
Et les moyens de l'acheter. Alors, ça, c'est autre chose. Moi, je fais confiance au cercle et je les soutiens vraiment à 200% dans cette entreprise. D'abord, il est tout à fait utile que des associations comme celle-là, notamment quand elles font un travail de qualité, viennent aider les mairies qui ne peuvent pas tout faire. Hein, ni la mairie de Cassel, ni les mairies en France ne peuvent tout faire. Donc, il est utile qu'on ait des associations qui viennent aider, qui viennent proposer des projets, qui secondent sur les appels, par exemple, au fonds pour restauration, qui sont des démarches compliquées. Et j'espère vraiment qu'on aboutira à un projet patrimonial. En tout cas, moi, je le soutiens et j'essaye d'aider à ma mesure autant que possible, parce que c'est un patrimoine très important que ce château Vendôme à Cassel.
Ouais, qui était magnifique, qui malheureusement a été pillé par certaines personnes.
Qui a été bien sûr pillé à de nombreuses reprises. D'ailleurs, c'est sans doute pas terminé, hein, puisque le cercle impérial relevait lors de sa dernière assemblée générale à laquelle j'ai assisté, que des pillages étaient encore intervenus dans des délais récents. On a vraiment là un sujet à travailler. Dans les prochaines années à Cassel, ce serait vraiment dommage. Cassel a cette chance, c'est un concentré de toute l'histoire de France.
Oui.
la Gaule, la Flandre, les provinces, l'Ancien Régime, le premier, l'Empire, de manière générale.
Nicolas Anakin.
Voilà, on a tout. Donc, raison de plus pour ne laisser de côté aucune part de l'histoire.
Moi, je dis toujours Castel, terre de culture, terre de tradition.
Bah, par excellence. Par excellence, bien sûr. On a le musée aussi qui met ça sérieusement en valeur, bien sûr.
Complètement. On peut dire, on va en parler, parce que je trouve que c'est important, il y a quand même une belle rénovation de l'hôtel Sokel qui va devenir l'office du tourisme.
Oui, oui, oui. Très belle.
Il a repris de la vie, cet hôtel.
Oui. Ouais, je trouve vraiment, là, les échafaudages ont commencé à être enlevés. Je trouve vraiment
c'est magnifique.
C'est une restauration qui a l'air de très très bonne qualité.
Avec des gens de qualité, avec des entreprises de qualité.
Et avec Destination Cœur de Flandre, j'avais assisté à une réunion il y a quelques semaines qui expliquait l'ensemble des projets qui allaient être faits par l'hôtel Sokel et par un débouché derrière dans les jardins avec des salles de réunion. C'est pas mal. Cassel a vocation à se renforcer encore comme capitale du tourisme en Flandre. 25 000 touristes par an qui passent à l'office de tourisme. Hein. Donc
ouais,
ça veut dire
pas mal.
Ça veut dire beaucoup plus.
La dernière expo de Bruegel, l'ancien, 72 000 personnes d'avril à septembre.
Remarquable exposition que j'ai adoré. Je l'ai vu, je suis allé trois fois.
Je suis pas étonné. Revenons quand même, entre guillemets, à nos moutons, ce sacré hôtel d'Aluin.
Qui est aussi une belle bâtisse.
Complètement.
N'est-ce pas ? Très, 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 très belle bâtisse. Alors, aussi avec une histoire très riche, puisque cet hôtel a été bâti au milieu du XVIIIe siècle pour le mariage de Dame Van Capel, d'une dame de la famille Van Capel, avec Charles-Jérôme Joseph de Preud'homme-d'Ailly, qui était le fameux comte d'Aluin, qui est un titre de courtoisie. Et au sommet d'ailleurs de l'hôtel, on voit les
armoiries.
Les armes d'alliance, effectivement. Van Capel à dextre et à droite, et à sénestre, à gauche. Le médaillon de la famille de Preud'homme-d'Ailly, et au-dessus de ces deux médaillons, alors vous avez le lion de la famille Van Capel et le griffon de la famille Preud'homme, et au sommet vous avez une couronne, mais qui est une couronne marquisale qui représente le titre de marquis, puisque de Preud'homme-d'Ailly était marquis de Verquignol. Et à l'intérieur de cet hôtel du XVIIIe siècle, remarquable, vous avez cet espace de galerie qui a été fait sur le hangar qui avait été créé par le garagiste Citroën,
dont on
voit encore le garagiste Citroën. Donc là aussi, cet hôtel d'Aluin est un concentré de l'histoire de Cassel, avec plein de nouveautés qui y arrivent d'ailleurs.
Oui, je crois que vous êtes en recherche de personnes qui pourraient intégrer justement ce qu'on appelle communément le passage.
Alors, le passage, alors la galerie en tant que telle...
Cette galerie, elle a changé de nom aussi, dernièrement.
La galerie avait pris pour nom ces dernières années la galerie Le Passage. Nous avons préféré, et le propriétaire de lieu a préféré que nous revenions à l'essentiel, donc en rappelant qu'il s'agissait bien de la galerie de l'hôtel d'Aluin, avec à l'intérieur abrité notamment une association, le Conservatoire Flamand des Arts et du Patrimoine, qui organise d'ailleurs en permanence et qui organise en ce moment même une exposition d'artistes locaux, mais aussi du patrimoine. Bientôt une exposition sur le carnaval. Et avec, dans les autres espaces de cette galerie de l'hôtel d'Aluin, des boutiques très nouvelles dont je ne peux pas vous parler pour l'instant, mais qui vont arriver dans les prochains mois.
Un plus,
et qui
alors
vont ravir tout le monde. Bien sûr, à plus. Et un nouveau parcours d'exposition autour de l'histoire de l'hôtel également, qui j'espère va être très bien. En tout cas, c'est moi qui travaille dessus, donc
normalement, c'est gage de...
Mais voilà, donc j'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent à nous rendre visite, tout simplement, 32 grands places.
Je crois qu'on peut rappeler aussi, et moi j'en ai les souvenirs, entre guillemets, ma jeunesse, de ces deux fameuses pompes à essence qui étaient devant l'hôtel d'Aluin. Et d'après ce que j'ai pu entendre, il y a des gens qui ont énormément d'anecdotes à parler de ce garage. Il y a plein de choses qui se sont passées.
Bah, il a été quand même en fonction assez longtemps, hein, bien sûr. Et c'est aussi sympathique de voir que cet hôtel, qui était au début une résidence privée, voilà, de l'aristocratie. Alors, je pourrais vous parler de l'histoire de la famille pendant la Révolution, qui est la comtesse de Flandre qui était dans l'hôtel arrêtée, etc. Mais enfin, c'est une histoire très, très intéressante. Donc, cet hôtel particulier qui était d'abord une résidence privée d'aristocrates, devenu ensuite un garage automobile, donc par définition préoccupé par tous. Et puis, pour finir, une galerie de boutiques et d'expositions artistiques et patrimoniales. Je trouve que c'est une manière intéressante de...
C'est une renaissance.
Oui, c'est des renaissances. Et je trouve que c'est des manières intéressantes de justement, de faire vivre aussi le patrimoine à Cassel. Parce que l'hôtel d'Aluin, les associations, l'association qui est abritée, les boutiques et les personnes qui y passent et qui s'y investissent, ont aussi pour objectif eh bien, de participer au rayonnement culturel de Cassel. On a tous ces bouts d'histoire à Cassel, il faut les entretenir, il faut les développer.
Un vrai puzzle en fait.
Bien sûr, mais c'est tellement merveilleux, c'est un village tellement merveilleux, une campagne tellement merveilleuse, mais comment peut-on ne pas être bien ici? Alors d'autant plus quand on est amoureux d'histoire, il y en a pour tous les goûts ici.
Bah, quand tu vois la collégiale, quand tu vois le Mont-Piété qui a été racheté, qui va bouger, qui va s'adapter, c'est formidable.
Bah, c'est bien sûr, bien sûr. Donc moi, je suis content de voir que Cassel, eh bien justement, se renforce comme place forte du tourisme en Flandre. Mmh. C'est très, très important.
Moi, je dis toujours que tourisme et économie sont intimement liés.
Bien sûr.
Je disais dans une précédente émission, aujourd'hui, on ne se voit pas refaire, ou faire plutôt, parce qu'il n'y avait pas vraiment des usines ici à proximité. Quoi. On ne va pas faire l'entrepôt d'une plateforme qui peut se livrer le lendemain pour une commande la veille, quoi.
On va pas forcément faire effectivement ce genre d'entreprise ici, mais oui, à chaque territoire sa dynamique. Sans aller très loin, on trouverait des villes plutôt industrielles, mais Cassel, de par sa géographie et son histoire, est plutôt voilà l'espace touristique et culturel. Ce qui est loin d'être moins honorable, c'est on a besoin de tout. On a aussi besoin de villes industrielles, bien sûr, avec des nouvelles implantations là qui arrivent
en train de se faire sur le Dunkerquois.
Sur le Dunkerquois.
Qui est dynamique quand même. Il y a une dynamique bien changée.
Qui change et une dynamique existe. Mais je ne doute pas qu'elle rayonnera aussi sur les Flandres intérieures. En tout cas, j'espère. Il manquerait plus que ça.
Il n'y a pas photo, c'est certain. J'espère. Surtout que nous avons Lille à proximité. Tu
bien
pars
sûr.
De Lille, tu arrives à Cassel. Tu visites Cassel, t'en profites. Tu pars à Berg, qui est en pleine rénovation.
Mm-hmm.
Avec, on va le citer, Paul
Loutroncois.
Qui a donné un dynamisme à cette ville qui, pour moi, elle devient formidable. Quoi.
Absolument.
Quand on voit la place qu'il a fait faire avec ses équipes, sans perdre aucune place de parking, qui va l'aider, c'est bien, quoi. C'est pratiquement, c'est un petit Bruges.
Oui.
S'il faut donner un exemple,
oui,
une comparaison.
Et puis une comparaison qui puisse tenir la route face à Cassel. Et puis il y a une particularité, voilà, Berg plutôt en citadelle, Cassel sur le mont.
Faisant un crochet par Esquelbecq et son magnifique château.
Bien sûr, bien sûr. Bon, voilà. Qui, comment ne pas être bien dans cette province? Moi j'aime bien c'est le terme de province.
Moi aussi.
Comment ne pas être bien dans cette province? Franchement, on a beaucoup de chance. Mais Cassel, pour moi, sa chance, c'est justement ce côté unique avec ce puzzle, comme tu disais tout à l'heure.
Voilà, exactement. Eh bien, écoute, je dis toujours que quand nous sommes en bonne compagnie, le temps passe très vite.
C'est vrai,
on arrive pratiquement au terme
vite.
De notre émission. Je tiens encore à te remercier d'être venu. Moi, j'ai passé un moment extraordinaire. On va en profiter pour aller faire un petit tour au Kerozov pour écouter un peu de musique irlandaise.
Évidemment.
On va remercier Marik pour la technique. Et je te dis à très bientôt, parce qu'on va se revoir.
Merci beaucoup à toi pour cette invitation qui m'a fait très, très plaisir.
Plaisir partagé.